affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour va prendre la forme d'une enquête, d'une véritable enquête historique qui va nous mener loin, très loin même, car nous allons partir sur les traces de Saint-Dominique. Saint-Dominique, un nom qui nous sonne de façon très familière à nos oreilles, mais que nous connaissons mal. Oh, bien sûr, lorsqu'il nous reste un minimum d'imprégnation culturelle catholique, nous savons qu'il est le fondateur des Dominicains, l'un des deux ordres mendiants avec les franciscains, fondés eux par saint François d'Assise. Tiens, François d'Assise, lui nous est mieux connu, il nous est presque familier. Déjà, nous savons qu'il était d'Assise, et son seul nom évoque tout un univers. Nous savons que jeune, il était féru de tournois médiévaux. Nous pouvons l'imaginer sillonnant les routes, prêchant aux hommes et même aux animaux, s'essayant à convertir jusqu'aux mésanges. Or, rien de tout cela ne nous assaille s'agissant de Saint-Dominique. Celui-ci reste, pour la plupart d'entre nous, à la fois illustre et inconnu, du moins mal connu. C'est cette injustice que nous allons tenter, que nous allons nous attacher même à réparer aujourd'hui, grâce aux connaissances accumulées au cours d'une vie de recherche par l'historienne médiéviste Nicole Berriou, qui vient de publier, conjointement avec l'historien dominicain justement Bernard Odel, une véritable somme des textes concernant Saint-Dominique et l'ordre des frères prêcheurs. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Je précise que vous avez enseigné à la Sorbonne et à Lyon 2, ainsi qu'à l'école pratique des hautes études en sciences religieuses, et que vous avez également dirigé l'Institut de recherche et d'histoire des textes, ce qui nous mène directement au sujet du jour, car bien sûr, pour partir sur les traces de Saint-Dominique, ce qu'il fallait faire, c'était d'abord rassembler et analyser des textes. Or, nous découvrons qu'il y en a beaucoup plus que nous pouvions l'imaginer.
Oui, effectivement, le sous-titre d'ailleurs du livre, c'est « Témoignages écrits », ce qui laisse entendre que tout est basé sur les textes. Alors, ce n'est pas que nous n'ayons pas eu de munitions antérieures qui avaient été déjà accumulées par d'autres, parce que chez les Dominicains, on s'est quand même un petit peu intéressé aux fondateurs, de manière peut-être moindre que chez les franciscains, parce que les Dominicains, quelquefois, ont l'impression que la vie commence avec eux et ils ne remontent pas toujours à leurs fondateurs. Mais il n'empêche que depuis le XVIIe siècle, il y avait eu des entreprises pour accumuler des textes. Donc nous ne partions pas de rien. Il y avait aussi des traductions, puisqu'il faut rappeler quand même que ces textes, justement, à l'époque à laquelle, au XIIIe siècle, à l'époque à laquelle ils ont été écrits, c'est la même chose que pour saint François, les deux hommes sont contemporains, ce sont des textes écrits en latin. Et donc notre objectif était à la fois de multiplier, d'enrichir la documentation connue par la recherche de nouveaux textes et de les donner accessibles à tous ceux qui ne maîtrisent pas nécessairement et le latin et les méthodes de travail de l'historien, faire une sorte d'atelier en quelque sorte où ils pouvaient accéder directement à des traductions contrôlées. Et c'est pourquoi il faut immédiatement ajouter à Bernard Odel que vous avez cité, avec qui j'ai travaillé constamment en collaboration, nous l'avons écrit à quatre mains en réalité, les introductions, les notes, etc. Mais pour la traduction, Gisèle Besson, qui est spécialiste de latin médiéval et qui nous a vraiment assisté d'un bout à l'autre de ce travail.
Alors, s'agissant des sources, il y a une première surprise en revanche, c'est qu'on s'imagine, de la part de Saint-Dominique, dont on sait quand même qu'il était un intellectuel, il y a peu de textes de sa main. De surcroît, c'était un prêcheur, donc on s'imagine qu'il pourrait y avoir des recueils de prêches, des textes édifiants, très peu.
Voilà, alors c'est le problème de l'historien, c'est-à-dire qu'il a sûrement écrit, c'est absolument indiscutable, c'est un homme de l'écrit. Il a, d'ailleurs, on le voit dans les témoignages qui sont portés à son sujet, on nous le montre écrivant, on sait qu'il a écrit des lettres, des sources indirectes on en a, mais des textes, d'abord on ne connaît pas son écriture, Et donc, il est possible qu'il y ait des choses qui nous échappent dans les fonds documentaires conservés, parce que les textes que nous conservons de lui, c'est trois petites lettres, mais qui ne sont pas de sa main. Ce sont des copies tardives qui ont été faites à la fin du XIIIe siècle, donc à peu près trois générations après lui, par quelqu'un qui a été rendu célèbre par Umberto Eco, qui est Bernard Guy, qu'il appelle en italien Bernardo Gui et qu'il présente comme un inquisiteur dans son fameux nom de la rose, mais qui, tout autant qu'inquisiteur dominicain, fin du XIIIe, début XIVe, a été historien. Et il a ramassé des sources dans les archives, dont ces lettres que nous avons grâce à lui. Mais évidemment, pas d'autographe. Donc, c'est très difficile de savoir exactement comment cet homme, qui est un homme de l'écrit, pouvait s'exprimer lui-même.
Alors, nous avons commencé à le situer. Peut-être faut-il d'abord faire un petit portrait de l'époque dans laquelle il naît. Parce que
oui.
C'est très bien de l'évoquer comme ça, de façon un petit peu intemporelle, comme oui. Il convient pour un saint qui nous parle encore aujourd'hui. Mais au départ, Saint-Dominique n'est pas Saint-Dominique. Il est simplement Dominique. Où est-il né? Dans quelles circonstances? Quelle est sa lignée? Parlez-nous du jeune Dominique.
Oui, vous touchez du doigt quelque chose d'essentiel. Ce que nous avons voulu faire, même si dans le titre il y a Saint-Dominique, car il est devenu saint par le processus de la canonisation, mais nous cherchions l'homme et l'homme dans son temps. Donc effectivement, c'est capital. Et nous n'avons pas mis Dominique de Guzman, bien que le nom soit toujours traditionnellement celui qu'on lui donne, parce que c'est une construction tardive sur laquelle nous n'avons aucune trace. Mais comme la lignée des Guzman est une célèbre lignée nobiliaire de Castille, et que normalement les saints sont des gens qui, dans l'imaginaire du temps, sont de préférence issus des catégories supérieures de la société, eh bien, l'idée s'est peu à peu infiltrée qu'il s'appelait Dominique de Guzman. C'est pas vrai. Nous ne savons pas comment il s'appelait. Nous connaissons son prénom, nous connaissons le lieu de sa naissance, qui est un bourg, disons, c'est un peu plus gros qu'un village, un bourg de vieille Castille qui s'appelle Caleruega.
Dans le nord de l'Espagne.
Dans le nord de l'Espagne, c'est ça, pas très loin de Burgos, pour situer un petit peu. Et on l'appelle aussi Dominique d'Osma, parce que l'église cathédrale la plus proche est celle d'Osma, dans laquelle il s'est rapidement rendu devenir chanoine de la cathédrale, c'est-à-dire pour faire partie du clergé qui desservait la cathédrale d'Osma. Et par ailleurs, dans sa jeunesse, la seule chose que nous sachions, nous ne connaissons que très très peu d'éléments, la seule chose que nous sachions avec certitude, c'est que cet homme a fait des études poussées, d'abord sous la direction très probable d'un autre chanoine, et puis dans l'université de Palencia, qui est une très ancienne université de l'Espagne, du nord de l'Espagne, pas très loin là aussi de Caleruega, et où nous savons qu'il a fait des études, en particulier il a étudié la Bible. Donc il faut qu'il soit un homme de l'écrit et qu'il ait lui-même écrit des textes, qu'il ait annoté des manuscrits, mais ces manuscrits, on ne sait pas où ils sont, parce qu'il y a un épisode célèbre pendant qu'il est jeune étudiant, il est à Palencia, une famine terrible se déclenche dans la ville et les environs, et il est tellement désespéré, ce jeune homme, de voir les pauvres mourir de faim, qu'il décide de vendre ses livres pour les aider à subvenir à leurs besoins. Et donc, peut-être qu'il y a des livres de Dominique qui ont circulé ainsi, à travers cette vente, mais nous n'en savons rien.
Oui, ce qui nous ramène à l'une de ces citations célèbres, si je ne me trompe pas, c'est que la sagesse vient du livre de la charité, avant tout du livre de la charité, c'est ça ?
Exactement, et c'est effectivement l'un des points qu'on va retrouver comme un leitmotiv à travers les rares documents directs de Dominique, mais surtout tout ce qu'on dit de lui.
En somme, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui est savant, mais il pourrait tout à fait se contenter de conserver simplement l'évangile.
C'est l'essentiel d'ailleurs. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que il portait toujours sur lui l'évangile de saint Matthieu, qu'il connaissait par cœur. Et donc, c'est tout à fait clair que pour lui, ça, c'est un élément central. D'ailleurs, ce n'est pas exceptionnel. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, la référence à l'évangile redevient une réalité très, très importante chez ceux qui veulent vraiment changer de vie, œuvrer pour répondre aux crises qui sont dans l'Église, puisque vous parliez de la situation difficile de ce moment. Et donc, Dominique représente un courant répandu.
Alors précisément, parlons du contexte, du contexte spirituel. Vous venez d'évoquer cette volonté de retour à l'évangile. dans le cas de Dominique, c'est un retour à l'évangile et au message évangélique qui s'inscrit dans le cadre de l'Église. Mais pour l'Église, le problème, c'est que ce désir de retrouver ce message se produit de façon quelque peu anarchique, puisqu'on est précisément à l'époque de ce qu'on appelle les hérésies. Enfin, en tout cas, d'un point de vue catholique, on les appelle les hérétiques, et qui se développent donc notamment dans le sud de la France. Où va se rendre Dominique? Alors, dans quelles circonstances y rend-il d'ailleurs? Est-ce que c'est clair? Il est envoyé là-bas en mission? Expliquez-nous ça.
Alors, en réalité, son évêque est proche du pouvoir royal. Il est un conseiller du roi, et donc il est envoyé pour choisir une épouse au fils du roi. Et il monte vers le nord de l'Europe, probablement le Danemark actuel, en traversant le Languedoc. Dominique l'accompagne, c'est un des chanoines les plus prometteurs, des intellectuels les plus prometteurs de la cathédrale. Et en s'arrêtant, en passant en Languedoc, Dominique découvre l'expansion de ces courants contestataires qui existent aussi en Espagne, dans le nord de l'Espagne. Mais là, il a vraiment le sentiment que l'Église est ébranlée, qu'on ne peut pas laisser faire cette contestation. Alors, l'Église, bien sûr, dénonce cette contestation en parlant d'hérésie, parce que c'est aussi une manière de reconstruire un petit peu l'histoire. Mais eux-mêmes, tous ces gens qui ne sont pas d'accord avec l'Église établie, en quelque sorte, se dénomment plus volontiers les bons hommes. C'est-à-dire qu'à travers ça, ce qualificatif, ils se représentent comme ceux qui sont ceux qui respectent le plus et qui suivent le plus l'Évangile. Et donc, Dominique, avec la fougue de la jeunesse, va commencer à discuter avec l'hôte de la nuit, et le matin, il l'a converti. Il a réussi à lui faire comprendre qu'il était sur une mauvaise voie. C'est le départ d'un itinéraire intellectuel et spirituel qui va être le sien. Il quitte bien sûr le Languedoc pour aller avec son évêque Diègue d'Osma jusque dans le nord de l'Europe. On négocie l'histoire du mariage. Mais ensuite, donc, son évêque d'ailleurs l'accompagne à nouveau, où on ne sait pas trop dans quel sens ça marche, c'est plutôt d'ailleurs l'autorité de l'évêque qui est la première, mais ils vont revenir tous les deux en Languedoc, et on peut dire qu'entre 1204, le premier passage, et 1211, c'est vraiment la première phase de la prise de conscience qu'il faut faire quelque chose, et comme le dit l'Évangile, comme le dit le Christ dans l'Évangile, ce qu'il faut faire, c'est la mission qu'il confie à ses apôtres, c'est aller prêcher et baptisé. Et donc, la prédication est vraiment l'élément fondamental de la mission des apôtres, avant même d'introduire les convertis, en quelque sorte, dans l'Église, en les baptisant. Donc, c'est ça que retient aussi Dominique. Il faut convertir ces gens qui ont dévié, et il déviait dans son esprit. Et en revanche, la notion, si vous voulez, du catharisme et de la lutte armée, etc., ça va intervenir dans la même période, la fameuse croisade des Albigeois, qui intervient à partir de 1208, c'est-à-dire au moment où un assassinat se produit à l'encontre d'un légat du pape, qui va produire donc une réaction extrêmement vive, une répression, et Dominique est témoin de cela. Dominique est d'ailleurs l'ami chef de la croisade, Simon de Montfort. Donc il faut bien mettre tout ça en perspective, c'est très compliqué. C'est très très compliqué.
Oui, d'ailleurs, il y a un certain nombre de débats. Approuvait-il la manière forte et militaire? Ne l'approuvait-il pas? A-t-il prié pour le succès des armes de Simon de Montfort? C'est assez difficile à déterminer. Si
on peut penser quand même, c'est très plausible, parce que Simon de Montfort est son plus grand protecteur. Et en réalité, Dominique n'est pas... Enfin, il vient d'ailleurs, c'est un étranger par rapport à la région, au diocèse de Toulouse. Et donc, même s'il a un autre appui en présence, sous la forme du soutien d'un autre évêque, l'évêque de Toulouse, très intéressant, Foulque, qui est un ancien troubadour converti, et qui lui-même prêche, parce qu'il a l'art de la rhétorique, comme on l'acquiert aussi, enfin, l'art de la parole, il connaît le pouvoir des mots. Et donc, ils s'entendent bien tous les deux. Mais il n'empêche qu'au quotidien, dans ce territoire qui est soumis à beaucoup de tensions et de violences, la protection de Simon de Montfort est très importante. Et c'est tellement vrai que Dominique célèbre le mariage du fils de Simon de Montfort, il baptise sa fille, etc. Et après la mort de Dominique, l'ordre va poursuivre dans cette même ligne en demandant des prières pour le salut de l'âme de Simon de Montfort. mort. Donc il y a vraiment là une tradition qui s'inaugure dans l'amitié entre Dominique et Simon, qui par ailleurs était un homme extrêmement pieux, extrêmement dévot et qui inspirait beaucoup de respect. Il ne faut pas le voir comme un homme simplement désireux de tailler.
Pas un vampire.
Non, pas un vampire et je dirais par rapport aux hérétiques, pas un homme prêt avant tout à en découdre avec eux. Il menait une mission lui aussi, au nom du pape en quelque sorte.
Alors on a d'ailleurs un petit peu, lorsqu'on lit ce type de récit, et notamment l'ordre de mission que, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, que reçoit Dominique, c'est d'aller porter la bonne parole dans les places fortes des Albigeois. On a un petit peu du mal à se l'imaginer partant avec son bâton de pèlerin et se pointer. Comment peut-on imaginer que ça se passait? On frappe à la porte, on dit bonjour, je viens vous convertir et on ne se fait pas estourbir.
Alors, vous avez raison de dire comment peut-on imaginer, parce que nous manquons de sources. Donc, il faut essayer effectivement de se rendre compte. Je dirais, la première chose peut-être à considérer, c'est que ce n'est pas non plus une guerre totale. C'est-à-dire qu'il y a des expéditions qui sont menées ici ou là, et Dominique n'est pas dans les armées des croisés. Dominique, lui, circule, généralement d'ailleurs pas seul, avec un ou deux frères qui sont comme lui décidé à prêcher, et il prend la parole, quelquefois peut-être à l'intérieur des églises, mais d'après ce qu'on sait, plutôt là où il est, quoi. Il rencontre les gens, il leur parle, et il ne fait pas toujours des sermons, quelquefois ce sont des conversations, même sur la route, etc. Et d'une certaine façon, il faut considérer que c'est le rayonnement personnel de Dominique qui fait l'effet attendu, mais tout en considérant aussi que lorsqu'on écrit sa vie pour montrer qu'il est saint, il y a des passages très intéressants où on montre qu'il s'affronte aux hérétiques. Il y a des moments où il risque d'être tué par les hérétiques. Et dans ces cas-là, il y a tout un cheminement intérieur qui lui fait dire « Mais j'accepte cette mort de martyr et je veux même que vous me l'imposiez de la manière la plus atroce possible en me découpant en petits morceaux. » Il y a un passage absolument terrible qu'on ne peut comprendre que si on lit en parallèle la vie de saint Vincent. Parce que ce diacre espagnol est vraiment un personnage qui a impressionné Dominique et qui l'a inspiré. Et on a conservé des reliques de saint Vincent en Languedoc, à Castres, et chaque fois que Dominique peut, il va prier à cet endroit. Et quand on regarde la façon dont est raconté le martyre de saint Vincent, on s'aperçoit qu'effectivement, tous les sévices qu'on imposait, selon la tradition hagiographique, aux martyrs de cette époque-là, parce que là, nous sommes vraiment dans les premiers temps de l'Église, eh bien, ça a impressionné Dominique qui, du coup, d'après les légendes, avait cette même attitude vis-à-vis des hérétiques en leur disant « Mais allez-y, et non seulement ça, mais faites-le de la manière la plus terrible possible. »
Alors, deux questions. D'abord, je pense qu'il faut préciser le terme de légende, car les légendes telles que nous les entendons dans ce type de contexte, ça ne veut pas dire que c'est fantaisiste. De quoi s'agit-il, ces légendes? Qui sont l'une des sources importantes.
Voilà, c'est encore un mot latin, c'est pourquoi il faut toujours avoir la ressource du latin quand on parle français, parce que légende, c'est legenda, ce sont les choses à lire, qui doivent être lues. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un est considéré comme saint, on raconte sa vie, et sa vie doit être lue. C'est elle qui va permettre d'accéder à la figure de sainteté. Et donc, quand on dit légende, ce n'est pas du tout une invention, c'est une construction ordonnée qui va permettre de faire comprendre à quelqu'un pourquoi on parle d'une personne en disant qu'elle est sainte. Et alors, ces légendes sont écrites normalement dans le contexte postérieur à la mort de l'individu. Quand l'individu est déclaré saint, par des processus qui varient selon les époques, mais à l'époque de Dominique, c'est la papauté qui commence à mettre la main sur tout ce qu'on appelle les procès de canonisation, qui invente même le procès par un système d'enquête, pour démontrer la sainteté de la personne. Et dans ces enquêtes...
Oui, garder le contrôle de ce qu'on offre à l'admiration des ouailles.
Exactement. Et ces enquêtes s'appuient sur des légendes, sur des récits dans lesquels on va déjà donner de la matière, en quelque sorte, au questionnement de l'enquête.
Alors justement, on se rend compte que c'est l'un des problèmes pour cerner réellement Dominique, et disons là, Saint-Dominique, puisque oui. Ça s'est bien terminé pour lui, il était béatifié.
Oui.
C'est que, précisément, par leur caractère, et sont des textes qui ont vocation à édifier, et du coup, tout ce qui... Je ne veux pas dire tout ce qui sera en contradiction, mais tout ce qui ne concourt pas à ce récit est laissé de côté.
Oui, exactement. Exactement.
Donc en fait, ce sont des textes assez rachitiques, qui sont focalisés sur les motifs de sainteté, mais tout le reste passe à l'as et disparaît.
Oui, il y a une sélection, c'est tout à fait clair. Alors, c'est intéressant que vous disiez béatifié, parce que ça correspond exactement à un autre problème au niveau des traductions. Il y a deux adjectifs pour dire saint. On dit beatus ou sanctus. On dit les deux. Et en réalité, ce que fait le pape au XIIIe siècle, c'est distinguer les deux processus en considérant que, à un premier degré, on peut être considéré comme un beatus, mais vraiment, avec le sceau d'authentification de la papauté, on peut devenir officiellement un saint et donc un sanctus.
Donc, je n'aurais pas dû dire béatifié.
Si, parce que, enfin, c'est pas grave, je veux dire, dans le sens où, justement, l'ambiguïté subsiste dans les textes du XIIIe siècle, mais on est dans un courant historique où on va avoir
c'est
tendance...
en cours de constitution, la distinction. Ça.
Voilà, et il faut peut-être dire que ça va se voir dans l'iconographie parce que, petit à petit, on va réserver l'auréole de forme ronde au saint, tandis que les bienheureux, catégorie en quelque sorte premier degré avant d'accéder à la sainteté parfaite dans la reconnaissance pontificale, eh bien, les bienheureux ont des rayons qui émanent de leur tête, mais vous voyez, on voit la différence qui se met en place petit à petit. Alors, puisque vous évoquiez le problème du portrait de Dominique tel qu'il est fabriqué dans les légendes, il y a une chose très intéressante, c'est que Dominique lui-même reconnaissait parfaitement ses imperfections, enfin, ce qu'on pouvait considérer en langage chrétien comme des imperfections, et sur son lit de mort, il a reconnu que, oui, il préférait la conversation, enfin, de bavarder avec les jeunes femmes plutôt qu'avec les vieilles. Hein. Donc ça, il l'a dit, et on le sait, tout le monde le dit dans les légendes, milieu 13e, on a demandé de faire sauter ça des légendes.
Oui, alors c'est très curieux. Alors ça m'a frappé, cet exemple, car il nous semble, avec notre sensibilité contemporaine, moderne, que ça a beaucoup plus de force de voir quelqu'un qui surmonte finalement des penchants assez naturels et communs pour atteindre la sainteté, plutôt que de nous les rendre parfaits dès le début, tant et si bien qu'on se dit définitivement, c'est pas moi, ça ne pourra jamais être moi.
Exactement, exactement. Et là, vous êtes en plein dans le problème qui est posé par la construction d'une église dans laquelle on définit des normes, des repères, etc. Et à l'époque où ça se fait, au début, on admet. Au début, dans les premières légendes, on nous raconte cette histoire. Ça fait partie du personnage de Dominique. Et puis, au milieu du siècle, ça change et c'est probablement, nous sommes assez convaincus de cela, c'est probablement parce que le pape lui-même a écrit, le pape du milieu du XIIIe, Innocent IV, a écrit des textes à propos de la sainteté dans lesquels il insiste sur la perfection absolue. Et comme il y a des concurrences entre les saints modernes et qu'en face de Dominique, il y a François, dont on ne discute jamais le caractère exceptionnel de la sainteté, puisque François a même reçu la marque des souffrances du Christ à travers les stigmates. Mais pour Dominique, il n'est pas stigmatisé, lui. Alors il ne faut surtout pas que, dans un autre plan, on lui maintienne une tradition avec quelques petits défauts qui écorneraient sa sainteté. Donc c'est peut-être dans ce contexte de concurrence entre la promotion des saints que l'ordre dominicain déclare dans son chapitre général. Donc c'est vraiment la décision la plus forte qui puisse exister à l'intérieur de l'ordre, c'est l'autorité suprême dit on ne doit plus écrire que Dominique aimait les jeunes filles plus que les vieilles dames.
Oui, ça m'avait échappé que c'était au sein de l'ordre dominicain que la censure se fait.
Voilà, exactement. Oui.
Pour ne pas rabaisser leur champion.
Voilà, c'est très étonnant. C'est très étonnant.
Alors, puisque nous en sommes à ce type de considération, peut-être, c'est-à-dire l'ordre lui-même, autre chose assez frappante et qui est surprenant, c'est que, si j'ai bien compris, un des premiers textes consacrés à Saint-Dominique, en réalité, n'est pas consacré à Saint-Dominique, mais à la fondation de l'ordre.
Oui, oui. Ça aussi, je vois que vous avez été très attentif à des choses essentielles parce que pendant longtemps, on a un peu considéré ça comme un aspect secondaire. On n'a pas vraiment focalisé la recherche là-dessus. Et assez récemment, je dirais au moment où l'histoire de Dominique et de son ordre est sortie du milieu même de l'ordre. Parce que généralement, ce sont les ordres religieux qui racontent leur propre histoire. Et au XXe siècle, les historiens laïcs se sont emparés de cette histoire, je dirais générale, dans laquelle s'inscrit l'histoire de l'Église. Et ils ont repris tous les documents concernant Dominique, et c'est un collègue italien, Luigi Canetti, qui a mis l'accent sur le fait que l'ordre dominicain est une fondation collective. Et qu'en réalité, nous l'appelons dominicain, mais eux l'appelaient l'ordre des frères prêcheurs. C'est le nom qu'avait d'ailleurs choisi Dominique. Et ce n'était pas simplement, comme j'évoquais tout à l'heure, le problème des rapports avec l'évêque. Ce n'est pas simplement Dominique tout seul, mais il y a Dominique et Diègue. Et puis après, il y a aussi Dominique et son successeur immédiat.
Parce Diègue, c'est l'évêque, donc.
Diègue, c'est l'évêque d'Osma. Donc, tous les deux ont l'idée en même temps et ils développent ça en même temps, même si le chef de l'ordre, c'est Dominique. Diègue meurt, d'ailleurs, avant que l'ordre n'existe réellement. Mais la préparation est une préparation déjà collective. Et ensuite, si l'ordre a un succès extraordinaire, c'est que dans les années qui suivent, immédiatement la mort de Dominique, il meurt en 1221. Et en réalité, le successeur de Dominique est un homme qui vient d'entrer dans l'ordre. Un Allemand, Jourdain de Saxe, qui est entré 2 ans avant la mort de Dominique. C'est lui qui donne une impulsion extraordinaire, une impulsion qui va faire de cet ordre, en 20 ans, l'une des institutions les plus importantes de l'Église. Donc, vous voyez, tout ça aussi est à prendre en ligne de compte.
Oui, ce qu'on semble percevoir, c'est que, comme on voit l'Église catholique comme une institution un peu hiératique, pyramidale, on a l'impression que l'impulsion est toujours donnée du haut, et à travers l'exemple de la création de l'ordre des frères prêcheurs, on sent plutôt quelque chose d'un peu spontané, presque biologique, qui naît comme une plante qu'on décide d'arroser ou pas, de pousser, de diriger, d'orienter. Voilà, il y a une part de spontanéité et de tâtonnement.
Oui, c'est très joli que vous parliez d'une plante, parce que c'est un des mots par lesquels on désigne la création de l'ordre. On dit que c'est une plantatio en latin. Donc vous voyez, vous ne pourriez pas mieux dire. Et en réalité, c'est vraiment ce jeu de dialogue qu'on oublie toujours. Mais Dominique, quand il a eu cette idée qu'il a mûri dans le diocèse de Toulouse, en travaillant avec Foulque, en prêchant en même temps que Foulque, il est allé à Rome, il est allé voir le pape, qui était le pape de la croisade, celui qui avait lancé la croisade, le pape Innocent III, qui, à ce moment-là, était en train d'organiser la réunion d'un concile tout à fait extraordinaire, qui a eu autant d'importance que Vatican II pour nous au XXe siècle. Et c'est ce qu'on appelle le concile de Latran IV, quatrième concile ayant lieu de manière comme ça très très large, qu'on appelle un concile général à Rome, au palais du Latran. Le concile a lieu en 1215, mais il a été convoqué 2 ans avant, et ce sont les années cruciales pour Dominique, dans lesquelles Dominique est en train de mettre en place son institution de prédicateur dans le diocèse de Toulouse. Il vient voir le pape, et personne n'est capable de dire aujourd'hui qui joue le rôle principal de Dominique ou du pape dans cette idée qu'il faut créer un ordre qui, à terme, concernera non pas un diocèse, mais l'ensemble de l'Église. Et il va devenir universel. Donc, c'est quelque chose qui est en train de mûrir.
On ne sait pas s'il vient plaider la cause d'un ordre en voie de constitution ou si c'est le pape qui lui dit « Tiens, ce que tu as fait m'intéresse et donc je vais te demander maintenant de faire ça. »
Absolument. Car ce pape est un grand prédicateur. Et ce pape est convaincu que la manière douce, en quelque sorte, à travers la persuasion, est probablement la meilleure manière d'obtenir des résultats dans une église qu'il sent très bien ébranlée. C'est pour ça qu'il réunit le concile. Il veut restaurer cette église.
Point très important, ce sont deux passages et qui correspondent à des sources qui sont assez édifiantes dans ce combat contre les hérétiques. Ce sont ces fameuses disputatio, tardives pourtant, et dans lesquelles, si j'ai bien compris, à la fois des albigeois ou des albigeois, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Des représentants de l'Église décident de se rencontrer. Oui. Et d'échanger leurs arguments pour essayer de démêler qui a raison ou tort.
Voilà, et ça c'est une nouveauté, tout à fait. Ça correspond d'ailleurs, je dirais, aux débats qui ont lieu dans d'autres domaines.
C'est très moderne. Par ailleurs, ça sonne comme quelque chose de très contemporain.
Absolument, et en réalité, c'est un peu sur le modèle de ce qui se fait dans les écoles, où on n'a pas les cours magistraux du maître qui enseigne les élèves, mais on discute, on débat. Le mot de dispute, dispute, disputatio en latin, vient du langage des écoles. On échange des arguments et parce que, justement, c'est une autre forme aussi de persuasion à côté de la prédication que sont capables de réaliser des gens qui sont passés par cette formation et qui donc peuvent apporter les meilleurs arguments. Et pour Dominique, c'est capital parce que l'histoire qui est peut-être restée à travers les siècles, qui est rattachée à la personne de Dominique, c'est ce qui est raconté en images sur son tombeau à Bologne par le ciseau du très très fameux sculpteur Nicola Pisano. Sur la face antérieure, c'est-à-dire celle que voient les fidèles quand ils viennent dans l'église du couvent de Bologne, c'est précisément le miracle, ce qu'on appelle le miracle du feu, c'est-à-dire que les arguments que Dominique employait pour convaincre, donc dans le cadre de la dispute, sont mis, d'après la légende, sur un petit livre. Et ce petit livre, jeté au feu, sort, et est en quelque sorte expulsé trois fois du feu pour prouver que Dominique a raison. Mais ça, c'est une histoire sur laquelle nous avons beaucoup travaillé. Et pour ça, il faut revenir au livre tranquillement quand on a le temps. Parce qu'en réalité, il n'y a pas seulement une histoire, il y a deux histoires. Il y a l'histoire d'un livre et l'histoire d'une petite feuille de parchemin. Et entre les deux, celle qui a gagné, je dirais, dans la tradition, c'est l'histoire du livre, celle qui est aussi racontée sur le tombeau. Mais ce n'est pas la bonne. La bonne, la vraie, la sûre, c'est l'autre, celle qui est racontée par le chroniqueur cistercien contemporain de Dominique sur la foi des paroles de Dominique lui-même, qui lui a rapporté l'histoire. Et c'est le petit bout de parchemin qu'il a donné, mais de manière privée, aux hérétiques. Donc, c'est une histoire, on voit bien à travers ça comment la construction des légendes modifie la réalité des événements tels qu'ils se sont produits du vivant de Dominique, pour dire que Dominique avait raison et que donc Dieu lui-même, en quelque sorte, a prouvé qu'il était saint à travers ce miracle qui consistait à faire sortir du feu les arguments de Dominique.
Voilà. Or là, évidemment, ça semble moins contemporain.
Ah oui, c'est vrai.
En revanche, ce que j'ai trouvé assez stupéfiant, que le fait soit vrai ou non, c'est la façon dont est rapportée l'une de ces disputations et où le futur saint Dominique emporte très clairement le débat, mais a le scrupule ensuite de révéler les arguments d'autorité qui ont servi de socle à son raisonnement pour l'emporter et les porte à ses contradicteurs de façon à ce qu'il puisse répondre jusqu'au fond et que décidément cette affaire soit réglée jusqu'au bout sans malentendu et sans artifice.
Oui. Vous vous rappelez ce qui se passe justement à ce moment-là, c'est que les adversaires de Dominique, tout en recevant ces arguments, n'entrent pas dans ce processus. Et justement, c'est ce que rapporte le cistercien présent sur place sur la foi de ce que lui a rapporté Dominique, comme il le dit dans sa chronique. Et il montre combien Dominique a été déconcerté par cette réaction ultime des hérétiques, entre guillemets, parce que, justement, il espérait vraiment les convertir. Et ça nous montre les obstacles auxquels il était confronté. Ce n'est pas quelqu'un dont le chemin était facile. Il a été constamment devant une interrogation. Il n'arrivait pas à faire changer d'avis. Le cas de l'hôte qu'il avait converti le premier jour, c'est un peu l'exception, en quelque sorte. Il y en a d'autres, bien sûr. On sait qu'il a donné des lettres de réconciliation à bien d'autres hérétiques pour les réintégrer dans le sein de l'Église. Mais malgré tout, il y avait aussi des échecs. Et des petites histoires comme ça nous montrent ces échecs. Et probablement la manière dont il était déconcerté et quelquefois il perdait un peu la foi dans sa mission face à ses échecs.
Ce qui est intéressant dans ces deux façons de présenter son combat pour convertir, l'une miraculeuse et l'autre assise vraiment sur la raison, quelqu'un qui veut absolument qu'il n'y ait pas de malentendu, que la conversion soit totalement sincère, qu'elle s'appuie sur la logique, le raisonnement. C'est un peu l'eau et le feu. Hein,
donc. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'on est plus proche avec ça de la complexité du réel et ça permet de se préserver du risque qu'ont tous les historiens devant une documentation qui est majoritairement une documentation sur la sainteté de Dominique, parce que quand on veut prouver la sainteté de quelqu'un, on peut manipuler la réalité historique dans le sens qui permet de prouver cette sainteté, vous voyez. Et c'était ça, ce miracle du feu, on l'a manipulé dans ce sens-là, au point d'en faire une image, qui est une image clé dans la tradition iconographique de Dominique.
Alors, justement, au fil de l'analyse de ces textes, on a l'impression qu'il y a un livre dans le livre. En quelque sorte, c'est un livre sur Dominique, où, en creux, grâce à des textes d'autres, on parvient finalement à ébaucher sa silhouette à la fois physique et intellectuelle. Mais c'est en même temps un livre sur l'évolution de la perception de Dominique.
Tout à fait.
Au fil de l'évolution des sensibilités.
Tout à fait.
Ou des besoins. Oui. Il y a notamment un fait qui ressort particulièrement et qui lui a causé beaucoup de tort, c'est qu'il est à un moment où l'Inquisition est plutôt bien vue, appelé le premier inquisiteur. Or, si j'ai bien compris, ça ne correspond pas à la chronologie, puisque l'Inquisition est créée après son décès.
Voilà. Alors, il y a depuis très longtemps dans l'Église une procédure d'inquisition, parce que le mot en latin inquisitio, ça veut dire l'enquête. Donc ça veut dire qu'une autorité prend l'initiative de faire une enquête pour vérifier si les soupçons qu'on entretient sur telle ou telle personne sont réels, correspondent à la réalité, et donc si cette personne est effectivement déviante.
Bon. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'instruction.
Oui. Alors ça existe, et c'est le pouvoir épiscopal. C'est l'évêque, en tant que chef du diocèse, qui a le rôle de défendre la foi, éventuellement en lançant une enquête.
Donc, c'est ça. Mais là, ça, c'est une pratique, ce n'est pas une institution.
Non, c'est une pratique, et c'est une pratique qui est intégrée dans les devoirs de l'évêque, sans que ça soit, si vous voulez, une obligation prioritaire. C'est vraiment en cas de danger, quand on sent qu'il faut essayer de contrôler la situation. Et donc, à l'époque de Dominique, c'est ça qui se passe. Donc, ce serait l'évêque Foulque, par exemple, pour le diocèse de Toulouse. Et la nouveauté, à partir des années 1230, c'est-à-dire une dizaine d'années après la mort de Dominique, c'est que le pape, qui a entre-temps changé, on n'est plus au temps du pape Innocent III, il y en a même eu un entre les deux, donc désormais le pape Grégoire IX, qui a un sens très, très développé de son autorité universelle et également de sa responsabilité par rapport à la foi, qui voit bien qu'il y a des foyers d'hérésie, entre guillemets, enfin de contestation dans l'Église qui se développe un peu partout, choisit une autre forme de manière forte, qui n'est plus la croisade, mais qui est l'Inquisition, c'est-à-dire qu'il décide de créer des tribunaux qui vont être directement sous son autorité, et qui vont être justement l'Inquisition pontificale, dans les années 1231-33, donc vous voyez, on est 10 ans après la mort de Dominique. Et ce qu'il est important de noter, c'est que la chronologie fait que ce sont exactement les années où on va commencer à retourner l'attitude vis-à-vis de Dominique au sein de l'ordre. Quand Dominique est mort en 1221, personne ne s'est occupé de déclarer qu'il était saint. Lui-même, d'ailleurs, y avait aidé en disant, quand il était à l'agonie, « c'est pas ça qui est important, là où je serai, je vous aiderai ». Donc, c'est 10 ans après, également, dans ces mêmes années, que se développe le procès de canonisation de Dominique, qui va aboutir à la reconnaissance officielle par une bulle pontificale en 1234. Et dans cette bulle pontificale, le pape, en réalité, insiste sur le rôle de Dominique dans la lutte contre l'hérésie. Alors, l'amalgame, petit à petit, va se faire. Mais ce qu'il est important de noter, et ce que, jusqu'à présent, je crois, personne n'avait mis en évidence, c'est que cette conception du rôle de Dominique face à l'hérésie va être, en quelque sorte, une manière pour les premiers dominicains inquisiteurs eux-mêmes de légitimer leur action en disant « mais Dominique a commencé ». Alors de là, vous voyez, très vite, on glisse à travers les mots vers l'idée que Dominique est le premier inquisiteur, ce qui est un anachronisme parfait, mais qui, du point de vue de la justification de l'engagement dominicain dans l'inquisition, fonctionne à plein.
Et c'est ainsi que les historiens laïcs blanchissent Saint-Dominique de crime dont l'accuse en réalité le discours de l'Église de l'époque.
Voilà, vous avez tout compris. Et je tiens à ajouter que c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce qui était peut-être attendu dans notre entreprise de traduction, nous n'avons pas donné de manière intégrale le texte de la légende officielle qui va vraiment s'imposer dans l'ordre, qui est faite par le maître de l'ordre Humbert de Romans, par rapport à l'Inquisition, c'est une vingtaine d'années après, dans les années 1250, parce que nous avons compris qu'en réalité, Humbert de Romans lui-même s'appuyait sur une autre légende qui avait été écrite juste avant. Il y a une quantité de légendes incroyables, il y en a 4 en un quart de siècle. Et donc, il prend la légende écrite par un de ses frères, italien, Constantin d'Orvieto, et il reprend pratiquement le même texte, mais il il le modifie sur certains points. Et si nous prenons le texte de Constantin d'Orvieto, nous sommes au début des années 40, c'est-à-dire exactement au moment où on sent émerger ce problème des cartèlements, au fond, sur qui était Dominique. Dominique était-il avant tout un prédicateur ou un inquisiteur? Et Constantin d'Orvieto, qui est donc frère dans le couvent italien, de la ville assez connue d'Orvieto, qui a d'ailleurs été une des résidences pontificales. Constantin est d'autant plus conscient que dans son couvent, il y a eu des déprédations qui ont été commises par les gens qui sont furieux contre l'action inquisitoriale des dominicains. Donc, ils ont vraiment attaqué le couvent. Et lui-même est un prédicateur. Et alors, on voit émerger dans le prologue, les gens ne lisent jamais les introductions, ils ont tort, parce que dans le prologue de la vie de la légende de Dominique, il dit « Je tiens absolument à écrire ce livre parce qu'on est en train de déformer l'image de Dominique et on atteint à sa réputation. » On atteint à sa réputation, il ne dit pas plus, mais on comprend bien que c'est dans cette espèce de récupération de Dominique comme inquisiteur. Donc c'est beaucoup plus intéressant de voir comment, 10 ans avant Humbert de Roman, ce Constantin d'Orvieto a créé en quelque sorte un portrait de Dominique sur lequel on voit ressurgir très fortement les tensions entre l'image du prédicateur qui est celle qu'il veut promouvoir et l'image de l'inquisiteur qui est probablement celle en train...
Qui était utile à ce moment-là.
Oui. Qui était utile à ce moment-là.
Alors, il y a un autre aspect qui nous le rend aujourd'hui beaucoup plus sympathique. C'est la façon dont il crée des règles extrêmement modernes, là aussi, dans son ordre. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le rôle du chapitre et le caractère... Aujourd'hui, on dirait que c'est une gouvernance participative et collective.
Oui.
Expliquez tout cela.
Alors écoutez, ça c'est vraiment une invention extraordinaire parce que on peut dire, on peut aller même dans ce sens-là un tout petit peu plus loin en disant qu'il invente des institutions démocratiques. Au sens où les décisions ne sont pas prises d'en haut par le chef de l'ordre, en l'occurrence d'ailleurs lui-même, dans son humilité, ne souhaitait pas du tout apparaître dans une position d'autorité de ce type, mais de son vivant, il décide, suivant d'ailleurs des modèles qui sont en train de se mettre en place ailleurs, au XIIe siècle, notamment dans l'ordre cistercien, qu'il y aura un chapitre général où viendront des représentants des provinces et des couvents qui sont choisis de manière démocratique à l'intérieur même des instances locales et qui seront renouvelés périodiquement et qui auront la fonction d'actualiser au fur et à mesure le fonctionnement de l'ordre par des décisions et des décisions qui ne seront pas validées en une seule fois, et ça c'est aussi extrêmement intéressant, mais il y a trois chapitres, il y a un chapitre par an et trois chapitres successifs avant que la décision ne soit pleinement validée. Elle est d'abord mise aux voix la première fois et puis après on se donne le temps de la réflexion et au troisième chapitre, on décide, s'il y a toujours un accord, que la décision est prise.
Eh bien, écoutez, c'est la sagesse de ceux qui pensent ou savent qu'ils ont l'éternité devant eux.
Oui.
Pas besoin de se presser. Nous ne sommes pas sur le même rythme que celui de notre vie politique, mais c'est intéressant.
C'est la prudence. C'est la prudence.
Oui, c'est la vertu de prudence.
Éviter de prendre une décision trop rapide. Et la vertu de prudence, c'est la vertu politique par excellence. Les politiciens auraient beaucoup à apprendre en lisant ce livre. Je leur recommande fortement.
Oui, il faut retrouver un peu de profondeur de champ. Ce qui est assez fascinant en préparant l'émission, j'ai appris que on réévaluait totalement les apports de ces différents ordres religieux à l'invention de la modernité et à la Renaissance, que désormais on plaçait les ordres, plus spécialement bénédictins, je pense, comme à l'origine d'une certaine forme de capitalisme et de revalorisation de la valeur travail. Je découvre maintenant que les dominicains peuvent avoir inventé un modèle démocratique et du coup diffuser dans la société une façon de faire différente de celle qui prévalait dans les institutions strictement politiques. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Je pense que c'est une forme de révolution de la recherche scientifique. C'est-à-dire que aussi longtemps que l'histoire des ordres a été aux mains des ordres, ils ont fait un très très gros travail de recherche documentaire, ils ont publié des sources, et puis ils se sont interrogés sur le rôle de l'institution, en tant qu'institution religieuse, parce que telle est leur vocation, donc on ne peut pas non plus leur reprocher. Mais c'est évidemment limitatif. Et l'intérêt qui tient d'ailleurs aussi à une raison historique, il y a de moins en moins d'intellectuels dans les ordres religieux, fait que désormais, les laïcs, les historiens laïcs qui essayent de prendre la mesure la plus juste ou la moins limitée possible de ce qu'a pu être l'histoire d'une époque, prennent en compte, sans être nécessairement des défenseurs de la place de l'Église indispensable à la société ou de la religion, mais simplement en analystes des situations les plus complexes possibles, ils considèrent qu'on ne doit surtout pas mettre à part comme un type de recherche spécifique, tout ce qui touche à l'Église et à la religion, mais l'intégrer dans une histoire qui est avant tout une histoire de la société, et c'est bien comme ça, et de la culture, c'est bien comme ça que nous-mêmes nous l'avons envisagé. Et donc, quitte à ne pas pouvoir tout comprendre, mais il faut au moins poser les questions. Et je crois que les grands renouvellements de l'histoire actuelle des ordres religieux, et singulièrement de Dominique, c'est la conjonction entre ce qui reste encore du travail d'érudition de certains historiens religieux, comme par exemple pour nous le père Simon Tugwell, qui à Oxford fait un travail immense d'études des sources, et à qui nous avons d'ailleurs soumis la traduction de nos textes pour vérifier et les annotations pour vérifier qu'il n'y avait pas des éléments qui nous avaient échappé dans les documents qu'il connaît bien mieux que nous. Et par ailleurs, donc, les interrogations des historiens qui essayent, eux, de prendre la mesure, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'ordre à l'intérieur d'une histoire. Alors, quelquefois, on n'a qu'une silhouette, et j'ai bien aimé votre mot de silhouette, parce que c'est ça qu'on a voulu montrer dans la couverture. Il n'y a qu'une silhouette, mais c'est quand même mieux que rien. C'est mieux qu'une ombre.
Alors justement, pour en revenir à l'homme, puisque nous avions démarré non pas par une grande fresque sociologico-religieuse, mais par un homme de chair, de sang et d'âme aussi, bien entendu. Si nous devions brosser le portrait en quelques adjectifs, lesquels choisiriez-vous ? De façon à nous le rendre plus proche, plus présent.
Oui. Alors, je dirais d'abord que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la fougue. J'ai employé le terme déjà tout à l'heure. Nous traduisons par ce terme le terme latin « fervor ». Alors, je dirais en traduction littérale, on aurait envie de dire « ferveur ». Mais « ferveur » est tellement connoté dans notre vocabulaire actuel sur un plan, je dirais, de rapport à Dieu, de prière, etc., qui est une part de la réalité chez Dominique. La prière, c'est très important. Mais fervor, c'est autre chose. Pour nous, c'est cette image d'un homme capable, avec une énergie extraordinaire, de réagir à l'événement et de s'engager avec une violence qui est mieux donnée par le mot de fougue. Sans compter que si on estime qu'il fait partie quand même de ces gens de l'Espagne du Nord qui ont une culture aussi très militarisée, eh bien l'élan qui est traduit à travers le mot de fougue correspond assez bien à la manière de faire de Dominique. Donc c'est la première chose peut-être qui me viendrait à l'esprit. Et je dirais d'autre part, en pondération par rapport à ça, le mot de discrétion au sens médiéval du terme. C'est-à-dire, pour nous, la discrétion, c'est ne pas se montrer, ne pas se mettre en avant. C'est une vision plutôt négative de rester à sa place, en quelque sorte, et de ne pas se faire remarquer. Au Moyen-Âge, c'est différent. Le mot a aussi le sens de discernement. Et c'est dans ce double sens que je l'emploie, parce que en tant que témoin de l'Évangile, il est humble avant tout, c'est la première des vertus qu'il essaye de pratiquer. Mais je dirais même que la pauvreté, par exemple, il ne veut pas la montrer urbi et orbi. Donc, par exemple, c'est ce que montre notre couverture, il marche pieds nus pour imiter les apôtres et le Christ quand il est sur les routes. Mais quand il rentre en ville, il se fait discret dans notre sens actuel, c'est-à-dire qu'il remet ses chaussures. Mais le discernement, évidemment, c'est une toute autre vertu, c'est un tout autre degré de maîtrise de son comportement dans toutes les circonstances de la vie, c'est la capacité devant n'importe quel problème de ne pas réagir, alors pour le coup avec une fougue qui serait un peu une réaction immédiate non réfléchie, mais c'est de se poser, c'est de réfléchir, de prendre les décisions, pas tout de suite, mais quelquefois du jour au lendemain, de décider, on le voit par exemple à propos démonial, il décide pas tout de suite, il dit à ses frères, attendez, je donnerai ma décision demain matin. Et il décide avec en priant. Et ce discernement lui permet effectivement d'avoir toujours un temps d'avance sur les problèmes qui vont se poser. Et c'est pourquoi on le voit de son vivant, créer le chapitre général. C'est un acte de discernement, de décider que, justement, le gouvernement sera collectif et sera le fait d'un consentement de l'ensemble des frères.
Alors, ultime question qui nous, oui. qui nous replonge, hein, qui peut créer des correspondances avec aujourd'hui. Lorsque je vous entends parler ainsi de Dominique, il y a un caractère très apaisé, pondéré, qui se dégage. En même temps, c'est une époque où on craint que la fin des temps soit advenue ou sur le point d'advenir. Comment cet arrière-fond est-il reçu par Dominique? Comment l'interprète-t-il? Bon, je sais que dans l'eschatologie catholique, c'est que la fin des temps, c'est aussi une bonne nouvelle, puisque c'est le retour du Christ, mais... Aujourd'hui, nous sommes dans une société où j'ai lu récemment que le sentiment d'un grand effondrement gagne énormément de terrain. C'est même devenu une science, la collapsologie. Que donc, voilà, notre monde va s'effondrer, serait sur le point de s'effondrer. Est-ce que ça ne redonne pas aux prêcheurs de cette époque une nouvelle fraîcheur?
Oui, parfaitement. Et je pense même qu'on pourrait employer à cet égard le mot d'optimisme. C'est-à-dire que le message évangélique, dont vous dites aussi qu'il a ce caractère positif du retour du Christ, il est conçu de cette manière. Et simplement, dans la vision traditionnelle dans l'Église, depuis les pères de l'Église, on dit constamment il faut que la société se réforme et se prépare à ce retour. C'est-à-dire, et pour ça, il faut des gens qui annoncent le message de l'Évangile. Donc, l'idée de Dominique n'est jamais que la reprise d'une chose qui traverse l'histoire de l'Église et que nous avons voulu mettre en évidence en consacrant du temps à cette mise en perspective de l'Église qui a besoin de prédicateurs, et on le trouve depuis l'époque du pape Grégoire le Grand, par exemple, 6e, 7e siècle. Donc c'est constant dans l'Église, et Dominique prend ça à bras-le-corps avec cette idée d'une urgence, bien sûr, mais il ne voit pas ça dans la décomposition d'une société qui va aller à sa perte, mais au contraire, dans un avertissement qu'il est urgent d'agir. Et dans cette action, je pense que le fait de lire tous les témoignages sur Dominique nous montre exactement que cet homme n'est pas un homme qui a sans arrêt une vision négative, bien au contraire. Cet homme est un homme heureux, un homme gay. C'est une des qualités qu'il a.
Ça aurait pu être un adjectif supplémentaire.
C'est un homme gay et c'est un homme qui a le sens des relations humaines. Ça, c'est aussi capital. C'est-à-dire qu'à travers tous les petits témoignages qu'on a, on se rend compte qu'il est toujours à la recherche de la rencontre avec les gens. Et dans la rencontre avec les gens, on transforme l'histoire et avec le petit grain de Sénévé, on fait une grande montagne ou un grand arbre.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense que c'est une conclusion parfaite pour nous présenter cet homme et aller à notre tour à sa rencontre. En nous plongeant dans votre ouvrage. Et je me permets d'adresser au passage mes félicitations, c'est un peu prétentieux, mais à l'éditeur, car la couverture est magnifique.
Merci.
Et elle nous le rend très très proche. Donc, puisque sur cette couverture, on le voit précisément en train de cheminer, pieds nus avec son bâton de pèlerin, oui. Ses chaussures accrochées à un autre bâton, et avec un visage doux et absolument ouvert.
Voilà.
Ouvert.
Écoutez, je suis
et donc il faut ouvrir ce livre en pensant à ce visage. Saint Dominique de l'Ordre des Frères Prêcheurs, témoignage écrit par Nicole Berriou et Bernard Odel aux éditions du Cerf qui appartiennent aux Dominicains d'ailleurs.
Absolument, absolument.
Merci madame.
Merci à vous. Thank you.